Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Salut Mariol, 2712, salut à tous les gens du chat qui ne sont pas actif dans le chat, mais bonjour à tous, salut à tous les viewers, salut à toutes les vieweuses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle matinale tech, puisqu'on est lundi matin, que le week-end s'est terminé, que j'espère que vous êtes bien reposés, et qu'on est prêt pour une nouvelle semaine d'actualité dans le monde merveilleux des technologies, avec tout plein de choses, dont je disais, ouais, salut Mariol, j'espère que tu as passé un bon week-end, moi ça va. Et la semaine va être chargée en annonces et en présentations, donc ça va être cool. Il y a pas mal de nouveaux produits qui sont attendus cette semaine, ou en tout cas qu'on va découvrir. Certains étaient déjà présentés au CES. Par exemple, je vais aller voir LG dans le courant de la semaine, qui va remontrer ses barres de son qui ont été présentées à Las Vegas pendant le CES en janvier. Donc ça date un petit peu, mais ce sera l'occasion de les voir en France, sachant qu'on n'a pas fait le déplacement là-bas. Et voilà, ça va être pas mal ça cette semaine. Il y a pas mal de petites présentations un petit peu partout, donc beaucoup de déplacements. Salut sur Newt, j'espère que tu vas bien aussi. Et voilà, et on va attaquer comme d'habitude. Alors, je me mets sur la bonne scène. Voilà. On a dit qu'on préférait celle-là plutôt. Petite sélection d'actu, sachant que j'ai pas l'habitude de faire le lundi matin. Généralement, c'est plus Anto qui s'en occupe. Donc, j'ai pas particulièrement l'habitude de faire le lundi matin. J'espère que ça va bien se passer. Mais surtout, le problème du lundi matin, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'actu à remonter, puisque le week-end, on en publie quelques-unes. On a quelqu'un qui est généralement d'astreinte le samedi matin, donc qui va travailler, qui va sortir un petit peu des news un peu chaudes dans sa région. Bref, qui va publier des news qui sont ce qu'on appelle des news chaudes, donc des actus récentes, et qui généralement récupère, du coup, comme il bosse le samedi matin, il récupère le lundi matin. En l'occurrence, c'est Manu qui doit être en train non seulement de dormir parce qu'il en récupère, mais également de dormir parce que c'est important pour lui d'être en vacances, parce qu'on a Manu qui est en vacances cette semaine. Quoi d'autre? Écoutez, ouais, on a quelques actualités quand même. On va pouvoir avoir du Samsung avec une news qui a été publiée par Kassim ce matin. On a également l'UE qui veut mettre fin aux abus des GAMAM. GAMAM, soyez pas étonnés, hein, c'est les anciens GAFAM. Google, c'est vrai qu'on met pas Meta. On met pas Alphabet, donc AMAM, Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, voilà. Apple Glass, la firme serait en proie à une bataille interne avant le lancement. Comment les voitures sont vraiment de plus en plus lourdes, et pas que les électriques. Pixel 7a, sa fiche technique se précise. Test des Audio Technica ATH-TW-X9, qui sont des écouteurs qui sont, ma foi, plutôt intéressants. Donc on va en parler rapidement parce que Audio Technica, c'est une marque qui est assez atypique dans le monde de l'audio, qui généralement proposait des rapports qualité-prix excellents avec des produits pas chers et de très bonne qualité. Là, pour le coup, c'est des écouteurs plus chers, ils sont à 319€ de mémoire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils valent? C'était vraiment la question qu'on se posait. Tu peux faire de vrais braquages chez Xiaomi à 19€, il se crée lui-même ses promos. C'est un témoignage qu'on a reçu sur notre Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et on va aborder ça un petit peu plus tard. Il y a de très bonnes astuces chez Xiaomi pour avoir justement des promos de très bonne qualité. Face aux difficultés de Twitter, Meta prépare son alternative décentralisée. Comment j'ai battu mon record au semi-marathon 6 mois avec les Garmin Forerunner 255? On se demande qui a écrit ça. Et Samsung pourrait renouveler son smart tag très prochainement. Donc ouais, ça c'est des news pour vous dire qui datent de vendredi après-midi, mais ça sera l'occasion d'en reparler. Et évidemment, comme tous les matins, on a quelques autres actus qui vont tomber. Ça, je sais pas si vous en aviez parlé de ça ou pas. Où est passé Redmi France, sachant que je vérifie juste la date. On est le 13 mars, donc le 9, ça devait être jeudi, donc je pense que vous avez dû en parler vendredi matin. Petite enquête de Titouan qui est ma foi de très bonne qualité. Et c'est vrai que Realme en France a l'air un petit peu dans les joues. Titouan en a parlé. Merci Kassim, super. Écoutez, on va attaquer tout de suite avec une news de Kassim justement. News photo en plus, donc c'est d'autant plus intéressant pour moi. Plus le côté Kassim que le côté photo, j'avoue. L'algorithme du Galaxy, parce que comme ça au moins les news elles sont prêtes quand je commence le live, c'est plus pratique. L'algorithme du Galaxy S23 Ultra proposerait un traitement trop artificiel de la Lune sur ses photos, au point de sembler la remplacer par des images déjà prêtes et plus détaillées, une nouvelle technique de traitement photo qui va trop loin. Alors, sujet épineux, et avant toute chose, je vais faire une petite pub pour les copains de Naotech qui avaient fait une vidéo il y a quelques années justement sur le traitement de Honor je crois que c'était Honor, c'est ça, voilà. Petite vidéo, alors je vous l'envoie, de toute façon normalement vous n'entendez pas le son. La conclusion de Jérôme à l'époque, de Naotech, c'était de dire on s'en fout. En fait, peu importe si la photo est vraie ou pas, enfin si l'image de la Lune est l'image qui est telle qu'elle est vue par le capteur ou l'image, une image récupérée en ligne, en fait, ça revient au même. Et la retouche photo fait partie de la retouche ou le développement photo font partie de l'expérience photographique. En fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le cadrage, c'est la lumière. Alors sur une photo de Lune, quand tu la prends en gros plan, etc., ça, en vrai, ça a pas d'intérêt. Parce que bah, une photo de Lune que tu prends en gros plan, tu vas retrouver la même partout sur Internet, en fait. Tu te distingues pas. Donc ce qui va être intéressant, c'est le reste. Bof, non, je suis pas d'accord. Je veux ma photo, moi, celle de mon capteur. Oui, mais en fait, tu la prends sur Internet, c'est la même que tout le monde. Si je fais photo pleine Lune, celle-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que celle-là, c'est la même que toutes, en fait. À moins d'avoir des nuages ou des trucs un peu... Voilà. Là, à la rigueur, avec un gros téléobjectif qui va te permettre de faire des trucs comme ça... Pourquoi pas? Mais là, c'est une très longue focale qui va permettre de faire ce genre d'image. Ou alors d'avoir du contexte avec des nuages, mais dans l'absolu, les photos que vous permet Samsung, c'est ça en fait, c'est cette lune-là. Donc c'est celle-là, donc c'est celle-là, donc c'est celle-là, enfin, donc c'est celle-là, donc c'est celle-là. On peut dire pareil pour les photos de la Tour Eiffel. Non, parce que la Tour Eiffel, à la rigueur, tu peux plus facilement avoir du contexte qu'une photo de pleine lune. Et oui, en vrai, éviter, enfin... Parce que tu peux la prendre en photo de mille façons différentes. Oui, c'est ça, tu peux bouger en fait. La Lune, c'est tout le temps cette face-là que tu vois. Cette face-là. C'est pour ça, je prends cette photo-là, je prends celle-là, je prends celle-là. Tu retrouves à chaque fois les mêmes éléments en fait. Parce qu'on voit tout le temps la même face. Et en plus de ça, bah, généralement, si tu fais la photo en x100 sur le Galaxy S23 Ultra, bah, tu vas la voir vraiment pleine face, quoi. Tu l'as, t'as pas de contexte avec. Moi, je dis, la Lune est un complot, elle n'existe pas. Mais quand je prends une photo, je veux ma photo passer d'un autre qui l'a prise il y a 5 ans. Oui, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement, en fait? Parce que cette photo-là, elle sera la meilleure, la photo qui a été prise il y a 5 ans et du coup qui est... Alors juste, je vais faire l'actu. Je vais expliquer un peu le contexte pour les gens qui n'ont pas suivi et qui n'ont pas encore lu l'actu qui a été publié par Kassim ce matin. Un mec sur Reddit, s'est amusé à une expérience, justement, en fait, Samsung promet avec le Galaxy S23 Ultra d'avoir des photos de lune hyper nettes, hyper précises, de très bonne qualité, etc. Voilà. Ce qu'il s'est amusé à faire pour vérifier si c'était vraiment le cas, c'est qu'il a téléchargé, des photos qu'on a vues tout à l'heure, téléchargé des photos de la lune, il les a affichées sur son écran de PC, il a éteint la lumière chez lui, il a dégradé la photo de la lune, tant et si bien que il l'a complètement flouté, donc ça rendait ça. Sur l'écran de son PC, on voyait ça. C'était pas plus net que ça. C'était cette partie-là. Il a pris la photo avec le Galaxy S23 Ultra, et il a eu une image plus nette que ce qui était affiché sur son écran de PC, ce qui tend à prouver en tout cas, que le Galaxy S23 Ultra va en fait récupérer des images en ligne pour avoir une meilleure optimisation. Salut Jink, j'espère que ça va bien. Donc de fait, c'est vraiment le même principe que quand Honor s'était fait taper sur les doigts, ou il va les récupérer en ligne, ou alors il y a des bases de données qui sont directement sur le téléphone, je sais pas précisément, mais Samsung fait du DLSS, exactement Kassim. Pour prouver cette triche, l'internaute iBreak Photos a créé une lune artificielle dans sa chambre, tel Vegeta dans Dragon Ball Z. Il a repris une photographie de la lune sur Internet, il en a détruit les détails grâce à un flou gaussien et une diminution de la définition à 170 x 170 pixels. On obtient l'image à gauche complètement floue et peu détaillée, il a ensuite éteint les lumières et pris en photo son moniteur avec le Galaxy S23 Ultra pour simuler la photo de la lune. C'était visiblement suffisant pour berner l'algorithme de Samsung qui propose la photo de droite beaucoup plus précise que le réel. Voilà, la photo de droite est de fait très agréable à regarder, mais elle ne rend pas compte du réel, certes, ou alors si en fait, parce que c'est le réel. C'est juste qu'elle fait abstraction des problèmes inhérents au capteur. L'algorithme a été à artificiellement ajouté des détails qui n'existaient pas sur l'image que l'on souhaitait reproduire. Elles n'existaient pas sur l'image que tu souhaitais reproduire, mais elles existent en revanche sur la vraie Lune. Les cratères notamment sont peu visibles sur l'image détériorée que l'on désire photographier dans cet exemple. Pour continuer cette démonstration, l'internaute a créé une nouvelle image où l'astre est présent deux fois. Lorsque le smartphone Samsung prend cette image en photo, il n'applique son algorithme qu'à un seul astre, laissant la copie de l'image floutée. Okay. La partie qui reste floue est donc celle que l'appareil photo peut prendre avec son traitement habituel, alors que l'autre partie de l'image est la conclusion de l'amélioration artificielle de la photo par IA. Est-ce une mauvaise chose ? Alors, hello, ça change. Je regarde juste un petit peu. Hello, salut Lionel. Ça change car quand on regarde sa photo, on se remémore quand et où on l'a prise, par exemple. Ça crée un souvenir en nous. Internet ne procure pas ça. Oui, mais ça change pas. Enfin, tu prends quand même la photo de la Lune, en fait. Donc, tu as pris la photo et... En vrai, si iBreak Photo avait pas fait cette expérience-là, on l'aurait même pas su que c'était pas des photos, une vraie photo de la Lune, ou en tout cas que l'appareil photo rajoutait des détails. Un peu comme les IA qui permettent de remettre des détails sur des photos super dégradées. Et en vrai, enfin très bon exemple, Indigo. Ça ne récupère pas la photo d'ailleurs, ça crée des détails par rapport à ce que l'IA imagine où seraient les détails. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, votre smartphone, si vous voulez prendre des photos sans aucune triche de l'algorithme, achetez-vous un vrai appareil photo. N'utilisez pas votre smartphone qui, de toute façon, va faire de la photographie computationnelle. Donc, va rajouter des éléments. Va faire du HDR, alors que le HDR sur la photo, il n'est pas là à la base. Hein. Va faire le mode nuit. Le mode nuit, normalement, il vous permet pas d'avoir autant de détails, même sur un vrai appareil photo. Va retoucher les verts, retoucher le bleu. Voilà. Samsung ne récupère pas des photos, en vrai, de ce que j'ai compris de l'article, c'est ça. Dans ce cas précis, non, c'est pas le réel. On parle de la photo de l'ordinateur. Oui, certes. Est-ce que ça change ? Enfin, et les petits télescopes automatiques connectés vont aussi chercher des images sur le net ? Non, mais pour le coup, tu peux pas demander à un Galaxy S23 Ultra avec un capteur photo qui fait à peu près cette taille-là d'avoir un téléobjectif de petit télescope qui fait cette taille-là. On n'est pas du tout sur les mêmes longueurs focales, en fait. Je m'y suis essayé avec le Galaxy S23 Ultra, j'ai autant été bluffé qu'impressionné par les photos de la Lune. Bah oui, mais tant mieux, mais c'est ça qui compte pour moi. C'est pas que les photos soient vraiment ce que voit le capteur, c'est de l'information computationnelle, de la photographie computationnelle, donc ça récupère des images pour améliorer la photo telle que vous l'avez prise. Vous n'avez pas envie de voir des photos floues de la Lune en vrai. Et je vous assure que vous n'avez pas envie de voir un zoom x100 sur la Lune avec le Galaxy S23 Ultra, tel qu'il est vraiment pris. Pour réaliser ces photos de la Lune, Samsung fait appel à un algorithme basé sur du machine learning. Le fabricant a entraîné son algorithme sur des centaines de photos de la Lune pour lui donner cet objectif à atteindre à travers les traitements proposés. Par contre, oui, juste, il y a un truc qui, pour moi, est plutôt grave, c'est que Samsung, pour le coup... Ah oui, t'as linké le Reddit. Samsung, pour le coup, précise que les photos sont... qu'il n'y a pas d'IA. Grosso modo. Et ça, pour moi, c'est plus embêtant. C'est que si Samsung dit qu'il n'y a pas d'IA et que c'est des vraies photos, ça aurait dû être des vraies photos. Même MKBHD a indiqué dans une de ses vidéos shorts populaires sur YouTube que la Moon n'était pas un overlay, n'était pas une surcouche, comme Huawei a été accusé de le faire. Donc pour le coup, je sais plus quelle est la communication officielle de Samsung sur le S23 Ultra Lune Samsung. Et s'ils communiquent là-dessus sur leur site. Là, par contre, s'ils mentent, c'est un peu plus problématique. C'est pas dit, hein, je sais pas. On va aller voir ça ensemble sur le site de Samsung. On accepte et on ferme. On va sur la page mobile. Je pense qu'ils communiquent sur la Lune. Hein. De toute façon, ça fait des années qu'ils communiquent sur le timelapse stellaire, astrophotographie. Ah, y a rien. Ok. A priori, en tout cas, sur leur site, y a pas de communication particulière sur les photos de la Lune qui seraient des vraies photos. Ce que je voulais vérifier. Salut l'atelier d'Arnaud. Hello l'SG Snake aussi. J'espère que vous allez bien. Donc, conclusion. Avec son exemple, iBreak Photo montre que ce traitement peut aller trop loin quand on le prend en défaut avec une image source qui n'était pas la Lune. Pour autant, si l'on se replace dans une situation prévue par l'utilisation du smartphone, la photo affichée par le smartphone rend bien compte de détails qui existent dans la réalité. La Lune propose bien des cratères, mais qui ont été recréés par l'IA plutôt que par l'appareil photo du Galaxy S23 Ultra. L'ajout de ces détails se fait bien au-delà de ce que le smartphone de Samsung serait capable de réellement photographier. On en revient à un débat vieux comme le smartphone. L'utilisateur souhaite-t-il une belle image de la Lune ? Quitte à ce qu'elle ne reflète pas la réalité des capacités de son appareil photo, ou soit-il une vraie photo, quitte à ce qu'elle soit floue et peu présentable. Bon, est-ce que, grosso modo, vous voulez une belle photo ou une vraie photo ? Voilà. On peut aisément penser que la photo détaillée mais fausse proposée par le smartphone correspond à ce que désire la majorité des consommateurs qui utilisent un smartphone pour photographier la Lune. Ici, ce que l'on pourrait reprocher à Samsung est surtout de ne pas permettre à l'utilisateur de régler les effets de traitement logiciel qu'il souhaite ou non utiliser. On voit avec l'exemple des deux lunes que Samsung est capable de proposer une photo proche du réel ou non avec un simple déclenchement de son IA. Cela devrait être une option. Je pense à vérifier, mais parce que j'ai pas de Galaxy S23 sous la, Ultra sous la main, ou de S22 ou S20 ou S21, à vérifier si c'est possible de le faire en mode manuel. Samsung a un mode pro qui va vous permettre de zoomer. À voir si jamais sur le mode pro c'est intégré quand même cette photo de la Lune ou pas. Si quelqu'un en a un sous la main, n'hésitez pas à vérifier. Mais même si bon, là il fait jour. Hein, donc, alors si quelqu'un en a un sous la main et chez qui il fait actuellement nuit, peut vérifier, ce serait pratique. Mais bon, mais là je serais curieux et je pense que sur le mode pro ça passe pas. Je dirais qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. La dénomination IA n'est pas réglementée. Ils peuvent dire computation, photographie et pas IA sans qu'il n'y ait de différence. Oui, mais à partir du moment où ils font de la communication pour dire c'est une vraie photo de la Lune, ou la Lune telle que vous la voyez, ou enfin voilà, ou justement dire que bah eux ils font pas comme Huawei, alors qu'ils font comme Huawei, c'est de la publicité mensongère. Donc voilà. Mais il faudrait quand même un mode auto sans IA si possible, je trouve. Oui, et chez Samsung je crois pas que ça soit possible. En vrai, de toute façon, l'IA t'en as forcément aujourd'hui sur du smartphone. Ne serait-ce que pour faire du pixel binning, ça utilise en partie de l'IA. Donc, j'avais testé le zoom x30 du S23 Plus. Quand on prend une petite affiche extrêmement loin, ben on voit que pendant la prise, que c'est illisible. Et après une demi-seconde, on voit d'un coup l'image nette et l'affiche avec tous ses détails. L'IA est forte. Alors, il n'y a pas que de l'IA. En fait, ils vont utiliser de l'IA, certes, mais ils vont également utiliser tes micro-mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre une photo, mais sauf que quand tu prends une photo, tu vas bouger un petit peu. Tu vas faire comme ça. Enfin, tu vas avoir des micro-tremblements. Pendant tout ce temps-là, le smartphone va prendre une photo, va faire ce qu'on appelle une pose longue, mais sauf qu'il va compenser les micro-tremblements. Et ce qui fait que bah, quand tu vois la photo de base, elle n'est pas forcément nette, mais par contre, après, elle va l'être, parce que justement, il va compenser tous les micro-tremblements qui ont été calculés par le gyroscope du smartphone, généralement. Ça sent la class action aux USA. Oui, ce serait pas étonnant. Salut Lordibus, j'espère que ça va bien, que tu es bien réveillé, que tu as passé une bonne matinée, un bon week-end et une bonne nuit. Donc, scandale lunaire chez Samsung, on a terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pixel 7a, news qui a été publié hier. Un leaker. Alors, contexte, vous le savez, hein, mais je le rappelle, parce que vous êtes très intelligent. Google lance généralement deux gammes de smartphones par an. On a les Pixel chiffres, qui sont lancés à l'automne, et les Pixel chiffres A qui sont lancés généralement autour de l'été, fin du printemps, début de l'été. Traditionnellement, Google les présente maintenant pendant la conférence Google I.O. Et la conférence Google I.O., si je ne dis pas de bêtises, puisque désormais on a la date, ce sera en mai, le 10 mai. La Google I.O. 2023 aura lieu, le 10 mai, c'est ça. Donc, on s'attend à une présentation du Pixel 7a dans 2 mois. Et du coup, on a déjà quelques informations. Alors, on avait déjà eu des leaks, mais désormais, c'est des caractéristiques de ces smartphones qui ont fait l'objet de nouvelles fuites de la part de Debayan Roy de chez Gadget Data, qui a publié sur Twitter plusieurs caractéristiques attendues du Pixel 7a, qui aurait droit à un écran de 6,1 pouces, Full HD+, OLED et 90 Hz. C'est pas mal pour un smartphone milieu de gamme. Surtout relativement compact, ça j'apprécie, j'aime bien ça. Puce Tensor G2, donc la même que sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, de la RAM LPDDR5, du stockage en UFS 3.1, alors on n'a pas les capacités de RAM ou de stockage. Capteur photo principal, ce serait un Sony IMX787 de 64 mégapixels. Alors je vais faire une petite recherche. IMX787, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un capteur de quelle taille? Specs. 1 sur 1,7, c'est pas mal. C'est pas on n'est évidemment pas sur le capteur 1 pouce, mais ça permet quand même d'avoir 1 sur 1,7, donc 64 mégapixels, c'est pas mal. 64 mégapixels, en plus, ça va permettre de faire des photos avec du bon pixel binning. Et ultra grand angle de 12 mégapixels, donc pas de téléobjectif, mais en même temps, avec un capteur principal de 64, ça vous permet normalement déjà de faire un zoom x3, qui est correct, puisque 64 divisé par 9, on arrive à Non, 64, qu'est-ce qu'on a? 64 mégapixels, donc 64 divisé par 4, 16. Donc ça vous permettrait de faire des photos en zoom x2 de 16 mégapixels, donc en zoom x... Ouais, c'est pas mal. Charge sans fil 5 watts, c'est méga avare, oui, mais c'est sur du milieu de gamme. Je crois que pour le coup, le Pixel 6a, il n'était même pas compatible, charge-chi. Si, Android 13. Voilà, nouveauté, la présence de charge sans fil absente sur le Pixel 6a. Tu vois, mon Indigo, finalement, c'est pas si mal, hein. Avec une puissance de 5 watts en revanche, il faudra se montrer aussi patient qu'un utilisateur d'iPhone pour recharger ce téléphone sans fil. En dehors des informations sur l'appareil photo, une précédente rumeur évoquait 3 capteurs. Ah, ce serait mieux. Cette fiche technique corrobore dans les grandes lignes les précédents bruits de couloir au sujet du Pixel 6, du Pixel 7a. À quelques semaines de la révélation finale, elle semble donc se préciser. En sachant que le 4K c'est 8 mégapixels. Oui, de toute façon on est large hein, avec 64 mégapixels. Oui, mais 64 mégapixels ça va pas te permettre. Enfin, ça va te permettre de zoomer. Enfin, c'est pas. Tu t'en fous de. Quand tu prends des photos classiquement, ça prendra pas des photos de 64 mégapixels. Hein, ça va faire comme aujourd'hui bah, sur un iPhone 14 Pro. T'as un capteur de 50 mégapixels, mais dans les faits, c'est des photos de 12,5 mégapixels qui sont prises. Parce que justement, ça va faire du pixel binning, donc ça va donner. Merci pour le follow, Ergoz. Merci pour le follow également à Lionel et à. Bah, ensuite, c'était plus tôt, donc c'était pendant la nuit. Il n'était pas sur le 6A en effet, mais quand je vois ce que ça peut donner, et score la nuit, ça sera utile. Oui, c'est vrai que c'est pas hyper. Bon. La petite baffe iPhone au passage. Non, c'est pas une baffe. Enfin. Même le Pixel 7, hein. Le Pixel 7, il a un capteur de 50 mégapixels, mais il prend des photos de 12,5 mégapixels. C'est le cas aujourd'hui. T'as quasiment plus de smartphones aujourd'hui qui ont des capteurs de 12 mégapixels. Alors que pourtant, les photos qu'ils prennent, c'est des photos de 12 mégapixels. Parce qu'ils font du pixel binning. Donc, ils vont, ça, et ce qui va permettre de réduire le bruit numérique. Donc les petits points disgracieux sur les photos, ce qui va permettre de prendre des photos avec une meilleure plage dynamique, avec une meilleure qualité de plus de lumière, plus d'informations, un meilleur bokeh, etc. Si on regarde, qu'est-ce que j'ai testé là, c'était le Vivo X90 Pro la semaine dernière. Le Vivo X90 Pro de mémoire, il a un capteur photo principal de 50 mégapixels. Mais dans les faits, c'est des photos, voilà, 50 mégapixels, mais les photos, c'est des photos de 12,5. Alors certes, il y a un mode 50, il y aura aussi un mode 50, rassurez-vous, peut-être pas chez Google. Mais bon, il y aura probablement un mode 50 mégapixels aussi sur le Pixel 7a. Mais dans les faits, c'est pas des photos de 50 mégapixels qu'on prend, c'est des photos de 12,5. Et avec un mode 50 mégapixels, si vous voulez, quand les conditions de lumière s'y prêtent, pour avoir une meilleure définition. Et donc des photos avec un peu plus de piqué. Mais dans les faits, c'est pas du tout une pique contre Apple, hein. Même en 16 mégapixels, tu peux zoomer en x2 et rester en 4K. Ah, ou même, alors, x2, tu restes en 4K. Non, parce que x2 sur du 16, ça va pas te faire, ça va te faire du 8. Oui, t'as raison. Et même zoomer x4 en interpolant sans trop perdre de quali. Oui. Ah, la pique sur le temps de recharge. Ok. Plus de plage de couleur. Alors, ne pas oublier qu'en filmant en 4K, l'image est croppée pour pouvoir compenser les mouvements électroniques, électroniquement EIS. Oui. Electronic Image Stabilization. Stabilisation numérique, en vrai. En France, on a plus tendance à dire stabilisation numérique. Voilà. Donc, le Pixel 7a, ben, on l'a viré. Je l'ai déjà supprimé. Eh ben, tant pis. Est-ce qu'on a une nouvelle actu qui a été publiée ce matin? Pas encore. On va parler des Apple Glass. Alors, les Apple Glass, slash plein de trucs, parce qu'on sait pas du tout comment ça va s'appeler, ce bidule. Donc, le casque de réalité mixte, slash réalité virtuelle, slash réalité augmentée d'Apple, qui est attendu au printemps, qui devrait, enfin, on l'espère, être annoncé pendant la WWDC, dont on n'a pas la date, d'ailleurs, encore. WWDC 2023. Bon, on l'a pas. La WWDC 2022, c'était quand? C'était en juin, le 6 juin. Donc on peut s'attendre, ouais. Pareil, conférence développeur d'Apple au moment, au début du mois de juin, très probablement. Et donc, la principale annonce, ça devrait forcément être le casque de réalité mixte d'Apple, casque slash lunettes d'ailleurs. Et le Financial Times a publié un article qui explique que le calendrier fait l'objet de beaucoup de tensions chez Apple, qu'il y a pas mal de personnes dans les hautes strates de la firme qui seraient un peu pour repousser le lancement du casque parce qu'il n'est pas complètement prêt du tout, et que pour le coup Tim Cook aurait tranché le débat en faveur de Jeff Williams et d'une sortie anticipée. Donc Jeff Williams, qui est directeur des opérations, et qui aurait souhaité lancer cette première version du casque de réalité mixte le plus tôt possible. L'équipe en charge du design désapprouverait et préférerait attendre les lunettes de réalité augmentée. Cela prendrait toutefois encore plusieurs années avant d'être technologiquement viable. Donc Tim Cook est du côté de Jeff Williams, et donc Jeff Williams, et donc ils seraient tous les deux conscients des risques de se lancer aussitôt avec un produit qui devrait à la fois être très cher et pour un public restreint. Rappelons que l'on parle d'un tarif estimé à $3,000 pour la première génération. Ce premier casque devrait donc être encore encombrant, mais offrir une expérience immersive de premier plan. On parle d'être capable de regarder des vidéos en 3D, participer à une nouvelle version de FaceTime avec les Memojis et faire du sport avec Apple Fitness Plus sans doute. Voilà, comme le révèle 9to5Mac, l'issue de ce débat n'est pas anodine. Sous Steve Jobs, Apple remettait davantage de pouvoir entre les mains de l'équipe en charge du design, et c'est cette dernière qui avait souvent le dernier mot. Sous Tim Cook, les choses ont changé et c'est désormais l'équipe en charge des opérations qui gagne en pouvoir. Aujourd'hui, l'équipe en charge du design, autrefois dirigée par Johnny Ive et Evans Unkey, se place sous les ordres de Jeff Williams. Les enjeux autour du lancement de cette nouvelle catégorie de produits sont donc très importants pour Apple. La pression sur les épaules de la firme pour à nouveau créer un coup d'éclat sur le marché de la tech est maximale. Combien ? Oui, ouais, ça fait cher, hein. Autour de $3,000. Alors, évidemment, c'est limite un proof of concept, en fait. On est limite sur du prototype, du concept casque. Voilà, concept headset. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui sera vendu auprès du grand public. Je pense que, de toute façon, la première version, à mon sens, elle sera d'abord vendue plutôt aux développeurs pour essayer de développer des usages, parce qu'en fait, tu peux pas vendre un truc au grand public avant même qu'il y ait des usages. Mais bon, je crois pas qu'ils créeront un marché avec ce truc. Je sais pas du tout. Très honnêtement, les lunettes connectées slash casque de réalité virtuelle slash casque de réalité mixte, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce genre de produit. Je suis dubitatif. Voilà, je sais pas du tout. On verra bien. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un marché qui est qui décolle depuis 10 ans, dont on dit qu'il décolle depuis 10 ans. Sur les lunettes connectées précisément, tu sens que tout le monde est un peu au garde à vous derrière Apple et qu'est-ce que Apple va faire. Et pour le coup, je crois que c'était OMWC, les collègues ont fait un article justement. Les stars du MWC 2023 étaient les lunettes connectées, voici les plus belles nouveautés. En attendant les Apple Glass. Et c'est vraiment en mode, aujourd'hui, il y a plein de trucs. Il y a des Xiaomi qui fait des lunettes de réalité augmentée. Il y a TCL qui fait des lunettes avec un écran à l'intérieur. Il y a Oppo qui fait ses Air Glass 2, pareil, réalité augmentée. Huawei qui fait ses Vision Glass. Tous Essence Berlin, d'autres lunettes. Samsung qui se préparerait également des lunettes. On a ensuite, en type de lunettes, on a les lunettes de Snapchat. On a les lunettes de Bose, parce que Bose fait des lunettes avec qui font écouteurs. En fait, aujourd'hui, c'est un marché où il y a tout et n'importe quoi. On va avoir des lunettes qui vont faire écouteurs, on va avoir des lunettes qui vont faire caméra, on va avoir des lunettes qui vont faire réalité augmentée, des lunettes qui vont faire réalité mixte. C'est un marché qui est... il y a tout à faire. Et en fait, tout le monde fait un peu plein de trucs différents en attendant qu'Apple fixe la norme, comme ils l'ont fait avec les tablettes, comme ils l'ont fait avec les montres connectées. Et voilà. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que le jour où les Apple Glass seront lancés, on va avoir un marché qui va se consolider et qui va partir sur de nouvelles bases. S'il faut un iPhone pour fonctionner, ça va pas déjà limiter le potentiel de clients? Bah, a priori, il y aura à voir ce que t'appelles pour fonctionner. Merci pour le follow, Mayenne. À voir ce que t'appelles pour fonctionner. Parce que la rumeur, ce serait qu'elle serait autonome. Donc peut-être que comme une Apple Watch, tu as besoin d'un iPhone pour le configurer, mais c'est pas dit non plus. Tout le monde se dit, mais à quoi ça pourrait bien servir vraiment? On sait pas. Je vois tellement d'avantages à des lunettes à réalité augmentée. Traduction automatique par sous-titres, malentendant. Oui, non, mais il y a des usages. Le truc de Google Maps qui vous permet de vous géolocaliser dans la rue, d'afficher aller à gauche, aller à droite, etc. Dans les lunettes, ce serait top. C'est ce qui s'est passé avec la visio, oui. La visio, ça existait depuis un moment et ça c'est... Aujourd'hui, les gens, ils disent FaceTime, hein. Ils disent plus la visio. Je t'appelle en visio. Non, ils disent je te FaceTime, même sur Android. Les gens qui connaissent pas les différences, etc. Mais info sur son environnement et possibilité d'avoir des boutons virtuels. Oui, non, mais des usages, il y en a, je pense. Après, il faut que ces usages soient suffisamment pertinents pour justifier l'achat d'un produit à 1,000 euros. Sur du long terme, je pense pas que des lunettes connectées Apple soient vendues à terme à moins de 1,000 euros. Surtout si elles sont lancées au début à 3,000. Info sur son environnement, ouais. Donc voilà pour les Apple Glass. C'est pas prêt, mais ils vont quand même les lancer. En gros, s'il y a une conclusion globale à faire, faire un petit duo d'actu, enfin d'actu, de dossier. Comment j'ai battu mon record au semi-marathon 6 mois avec la Garmin Forerunner 255, c'est un papier pour me la péter uniquement. 6 mois après avoir commencé à utiliser une montre de sport et un semi-marathon plus tard, on fait le point sur la Garmin Forerunner 255, donc c'est ma montre, avec un test longue durée comme on le fait parfois sur les smartphones. Là je m'étais dit que bah, du coup je l'ai utilisé pendant suffisamment longtemps, cette montre que j'ai achetée pour le coup, pour vous faire un retour d'expérience. Voilà. Donc ça va être l'occasion. J'ai mis ton article de côté pour le lire dans l'après-midi en plus. Ah bah voilà, comme ça on va essayer de l'aborder ensemble rapidement. Enfin, on va l'aborder ensemble rapidement. C'est un article qui est très personnel, hein. C'est vraiment voilà. J'explique que bah grosso modo, ça fait un an sur Frandroid qu'on teste des montres de sport, que pour tester des montres de sport, il faut faire du sport pour vérifier justement ne serait-ce que la fiabilité de la mesure de fréquence cardiaque pendant l'exercice, la qualité du GPS, etc. Et donc du coup bah je m'en suis acheté une pour continuer à courir pendant l'hiver, parce qu'il y a un truc qui est hyper frustrant, c'est que quand on court que l'été, tu arrives au mois de mai et tu te relances dans la course à pied, tu as tout perdu. C'est-à-dire que moi je cours depuis 2013, bah tous les étés, au moment de reprendre, bah je reprends comme si j'avais jamais couru de ma vie. Avec une allure qui est hyper lente, avec un rythme cardiaque, une fréquence cardiaque qui s'emballe, etc. Et donc là, je me suis dit, cette année, je vais essayer de courir cet hiver, et pour me motiver, je me suis inscrit au semi-marathon de Paris, qui a eu lieu, alors pas ce week-end-là, mais du coup le week-end d'avant. Et donc, pour préparer ça, je me suis acheté la Forerunner 255, pour me préparer, et justement pour pouvoir courir et m'entraîner, même quand j'avais pas de montre connectée en test. C'est un peu l'idée. Pourquoi j'ai pris cette montre-là ? Parce qu'en fait, elle a une bonne autonomie. Elle fait grosso modo tout ce que je lui demande. Elle a un design qui est relativement sobre, pour une montre de sport en tout cas. Elle a une très bonne fiabilité sur la fréquence cardiaque et sur le GPS. Et ça, c'était important pour moi, parce que je m'entraîne aussi bien avec le suivi du cardio, donc être à 75%, 85% de la fréquence cardiaque maximale, ou sur le GPS, justement, être à telle allure. C'est-à-dire que quand j'ai ma montre qui me dit il faut que tu ailles à 4 minutes 25 par kilomètre, ou 4 minutes 50 par kilomètre, ou 5 minutes 12 par kilomètre, il faut que je sois 5 minutes 12 par kilomètre, donc pour ça il faut que le GPS soit fiable sur la montre. Donc voilà, l'interface est épurée, pour le sport elle fait très bien les choses. Elle me suffit pour mon usage, c'est-à-dire que moi l'usage que j'ai d'une montre connectée, c'est les notifications et le sport. C'est tout. Le reste, je m'en fous un peu. Et je peux même pas stocker de la musique dessus, parce que de toute façon, quand je cours avec mon téléphone. Et que j'écoute des podcasts, donc de toute façon, même si je pouvais stocker de la musique dessus, ce serait un peu contraignant pour le côté podcast. Et ensuite, je peux le changer de bracelet facilement. Alors là, vous voyez, j'ai un bracelet sur cette photo-là, bracelet en tissu, qu'on voit un petit peu ici. Mais là, aujourd'hui, j'ai repris mon bracelet silicone de base. Hop, il n'y a pas de mise au point. Il n'y a pas de mise au point. Donc, j'ai repris le bracelet silicone de base, qui est le bracelet sport, parce que bah, j'ai couru hier soir et je recours ce soir, donc voilà. Oui, qui est le bracelet qu'on voit ici sur cette photo-là. Qui est un bracelet qui est plus élastique et qui va permettre justement d'avoir la montre-là. Mais si vous voulez prendre un bracelet classique en tissu ou en cuir, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié. La recharge, elle est relativement rapide. L'autonomie, elle est... Grosso modo, si vous ne courez pas, comptez une semaine. Si vous courez, comptez... Moi, grosso modo, avec 4 heures d'entraînement par semaine, elle tenait 4 jours. Donc 4 heures d'entraînement avec GPS, et avec le GPS le plus consommateur de batterie. Donc voilà. C'est vrai que le plus des tests sur les montres, c'est de vérifier que les fréquences cardio sont précises, et le GPS aussi font la différence par rapport à d'autres tests, car ça permet de comprendre la différence entre certaines montres à 60€ et d'autres à 200€. Même que je dis pas que de bonnes montres précises pas chères n'existent pas, et inversement. On est d'accord. Donc ouais, 4 jours si vous entraînez. Alors moi, pour le coup, ça va être une semaine grosso modo. Mais bah en fait t'as un écran qui est pourri, Monigo. T'as pas d'écran AMOLED, donc l'écran il est pas bien défini, il est pas hyper quali, mais par contre il suffit largement, parce qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage pour consulter les données. Pas mal comme autonomie, vu que le GPS doit pas mal pomper. Oui, et surtout que pour le coup, en GPS, il y a plusieurs modes qui sont proposés.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Moi j'utilise le plus consommateur, donc à savoir multi-GNSS, donc c'est-à-dire qu'on n'utilise pas uniquement le GPS, mais également Galileo, Beidou, QZSS et je ne sais, à chaque fois j'oublie le dernier. Merci pour le follow, Stepinski. Donc j'utilise le multi-GNSS et j'utilise également le double bande, donc L1 plus L5. Ce qui fait que, très franchement, le GPS de ma montre est meilleur que celle de mon téléphone. Et j'ai un téléphone, donc là c'est un Vivo X80 Pro, qui est en L1 plus L5, qui a GLONASS. Merci Valère, ajoute. Effectivement, GLONASS qui sont les Russes. Donc je suis en double fréquence, donc ça consomme beaucoup plus. Et c'est ça qui fait que c'est 4 jours d'autonomie, sinon ça pourrait consommer beaucoup moins. Et d'ailleurs on avait fait un papier il y a quelques temps justement sur une nouvelle fonctionnalité de Garmin qui s'appelle SAT-EQ, qui vous permet d'adapter automatiquement la connectivité du GPS en fonction du contexte, qui fonctionne très bien. Donc voilà, surtout quand on est au milieu d'immeubles, tout à fait. Ce qui est, je vis à Paris, donc ce qui est souvent le cas, notamment à mon départ et à mon arrivée, souvent le GPS fait un peu n'importe quoi, mais là il fonctionne très bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour tester Garmin Coach. Garmin Coach, c'est des entraînements qui sont un programme d'entraînement gratuit, intégré directement à Garmin, qui s'adapte en fonction de vos entraînements, en fonction de vos performances, en fonction de là où vous en êtes, en fonction de votre objectif, avec 3 coachs, alors qui sont des vrais coachs, mais qui pour le coup, c'est pas eux qui vous suivent, hein, c'est 3 coachs. En l'occurrence, moi j'ai pris le coach débutant qui est Jeff Galloway, parce que j'avais jamais couru de semi-marathon et je voulais surtout pas m'entraîner 4 fois par semaine, je voulais faire seulement 3 sorties par semaine, ce qui était une erreur, on y reviendra. Mais les coachs de Garmin sont, c'est un programme qui est pas mal, qui est efficace, qui est un peu brouillon. Là pour le coup, j'enchaîne à partir de ce soir sur un entraînement pour le 10K, les 10 km de Paris qui aura lieu au mois de juin. Et là pour le coup, je suis passé par un site, par un programme spécialisé, dédié Campus Coach pour le coup. Et je pense que ça sera plus adapté. Parce que là, le problème, c'est que je pense qu'il y a eu des bugs sur le truc. Donc, grosso modo, j'avais pris un programme avec un objectif de temps de 1h50, sachant que j'avais absolument aucune idée d'où je partais. Hein. J'avais jamais couru plus de 14 km au moment où j'ai commencé cet entraînement-là. Donc en visant une allure de 5 minutes et 12 secondes par kilomètre. Le gros avantage de cette fonction, c'est d'avoir des entraînements programmés directement dans la montre au moment d'aller courir après le travail. Pas besoin de la synchroniser, de paramétrer les séances ou de générer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que du coup sur une Garmin, on peut dire je veux programmer un entraînement avec 30 secondes de VMA, puis 30 secondes de récup, puis 30 secondes, enfin, et ça fois 12, ensuite on fait une sortie longue de 20 minutes à 6 minutes 30 par kilomètre, ou que sais-je. Là, c'est pas besoin. Là, c'est fait directement dans la montre, en fait. Tu lances l'entraînement, et tu vois directement sur la montre la jauge qui te dit, là, tu es bien dans l'allure qu'il faut, ou là, tu es bien dans la fréquence cardiaque qu'il faut, ou alors il te reste encore 6 minutes avec un compte à rebours qui te dit il te reste encore 6 minutes à parcourir à cette allure là. C'est tout fait, t'es pris par la main, c'est génial pour ça. Pour du fractionné, oui. Pour les séances de fractionné, tout est pris en main. Vraiment, ils te prennent par la main, c'est un régal. Ça marche super bien ça. Les pauvres quand même à Paris obligés de faire 10 km de course à cause des grèves peut-être. Donc pour ça, c'est super bien. Donc voilà, là typiquement, c'est un exercice d'entraînement qu'ils m'avaient envoyé. On a 10 minutes d'échauffement, donc marche ou footing léger, donc là c'est juste un compte à rebours de 10 minutes. Puis ensuite tu appuies sur la touche autre, donc la touche lap, qui est cette touche là sur la montre. Puis ensuite tu fais 6 fois 30 secondes de course avec une cadence, donc le nombre de pas par minute, de grosso modo 180 pas par minute. Puis 30 secondes de récupération, puis ensuite 30 secondes d'accélération par glissement, puis des étirements. C'est une séance facile. Mais voilà, et tout ça, c'est fait automatiquement. Et sur les pas par minute, il t'affiche sur la montre le nombre de pas par minute que tu es en train de faire, en temps réel. Donc, tu sais, t'es complètement pris par la main. 150-200, c'est en pas par minute, c'est pas en battement par minute, c'est pas la fréquence cardiaque, Monigo, rassure-toi. Mais effectivement, entre 150 et 200, en plus, c'est relativement large, hein. C'est conseillé de faire 180 pas par minute, généralement, puisque c'est là où on est le plus efficace en course à pied, là où on a moins de déperdition d'énergie. Oui, pas battement par minute, pas par minute. Et surtout, après chaque entraînement, du coup, j'avais une petite jauge avec la chance de succès. Donc, au début, je partais comme ça, avec genre en vert, c'est genre ils sont sûrs que je peux faire l'entraînement jusqu'au bout et que j'arriverai à mon objectif. En violet, ils sont absolument certains, genre trop certains. Il faut limite que je me mette à un objectif plus difficile. En jaune, c'est à peu près sûr, et en rouge, c'est allez, bouge-toi un peu, mon coco, parce que t'as loupé trop d'entraînement. Voilà. Et il y a une autre. Il y a un truc que je reproche beaucoup à l'entraînement de Jeff Galloway, c'est que, alors certes, je me suis fixé un objectif. Donc du coup, a priori, de ce que j'ai vu sur internet, c'est pas le cas, mais je suis pas le seul à avoir eu ce problème-là. J'ai eu trois sorties de plus de 21 km, à la rigueur, pourquoi pas. Mais j'ai eu une sortie de 32 km. C'était vraiment juste 10 minutes de marche, 10 minutes de récup à la fin, et au milieu, faites 30,5 km. Pour un semi-marathon, ça fait beaucoup. Et en fait, ma théorie, c'est que comme il n'y a que 3 sorties par semaine et qu'il faut qu'on fasse du volume kilométrique pour préparer un semi-marathon, bah du coup, oui, je pense que c'est nimp aussi. Mais du coup, il voulait faire des sorties longues qui soient vraiment longues pour être sûr qu'on puisse avoir du volume dans les jambes et faire du cardio et travailler bien le cardio pour être sûr de pouvoir faire le semi à la fin. Tu dois pas aller autour des 2/3 de course. Je pense aussi. Très sincèrement, je pense que c'est un bug. Après, voilà, comme ça, j'ai fait 32 km, quoi. C'est fait. Mais ça, je pense que c'était un peu n'importe quoi. Et effectivement, j'ai eu mal au genou. Je me suis pas mal abîmé à cause de ces sorties longues là, mais ça m'a permis derrière de travailler aussi sur les distances un peu plus longues et de savoir que l'air de rien, le semi je peux le faire. Voilà, j'avais pas trop de doutes, mais en tout cas sur c'était même pas une question d'être finisher, du coup c'était une question de réussir à faire le temps. T'es prêt pour le marathon? Alors on verra plus tard. On n'est pas là. Bonne matinée, l'atelier d'Arnaud. Le quantified self ou l'addiction aux données? Alors ça, c'est un truc que je connaissais déjà plus ou moins. Sur certains aspects, genre le nombre de pas sur une montre classique ou sur une balance connectée, le poids ou des trucs comme ça. Là, pour le coup, j'ai eu des addictions à des données dont je soupçonnais même pas l'existence. Genre voilà, le statut d'entraînement. Est-ce que ma variabilité de fréquence cardiaque est bonne? Et ça, c'est le genre des trucs, je regardais ça genre tous les jours et je continue à le faire. Mais est-ce que je suis en statut d'entraînement en pic, en récup, en progression, en désentraînement? Genre voir tous les matins, là par exemple je suis actuellement en récupération, et ça me fait chier parce que du coup je vais aller m'entraîner ce soir. Je vais aller m'entraîner ce soir pour être non seulement en maintien mais en progrès, en progression sur ça. Ma VO2 max, le fait de la voir monter au fur et à mesure, ça c'est un petit plaisir. La charge d'entraînement, est-ce que du coup je suis un peu bas là quand même, il va falloir que je remonte pour justement être bien dans les trucs. Il donne des conseils sur l'échauffement des genoux, chevilles pour les bonnes baskets? Non, pas du tout. L'échauffement, en tout cas sur l'entraînement de Jeff Galloway, l'échauffement c'était vraiment juste 10 minutes à faible intensité, ou 5 minutes, ça dépendait des séances. 5 minutes à faible intensité et ensuite juste de la des phases d'accélération. Il n'y a pas du tout les gammes, donc il n'y a pas de montée de genoux, il n'y a pas de talons-fesses, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les espèces d'accros, donc courir un petit peu sur la pointe des pieds en ramenant les pieds derrière, ce qu'on peut voir un petit peu sur ce qui peut se faire en course à pied. Et donc voilà, je consultais ça. Il y a autre chose que je consultais, en fréquence cardiaque au repos aussi, parce que ça, c'est un signe qu'on s'améliore. Mais le truc que je consultais le plus, c'était ça. Et ça, tu vois semaine après semaine, mois après mois, d'après Garmin, à combien tu es capable de faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon. Cette courbe qui montait au fur et à mesure, moi, c'était vraiment mon graal. C'était en mode, je pars de loin. Genre, au début, j'étais à 2 minutes. Enfin, il estimait que j'étais capable de faire un semi-marathon en 2h09. Donc, autant vous dire qu'avec un semi-marathon en 2h09, j'étais très loin des 1h50. Voilà. Peu à peu, entraînement après entraînement, course après course, je voyais cette durée se réduire, mais pas assez vite à mon goût. Fin novembre, j'ai tenu la prédiction de 2h06, fin décembre de 2h04, fin janvier de 2h, fin février de 1h58. Le matin du 5 mars, le prédicteur m'affichait alors un temps de 1h57. Je n'avais alors plus qu'un objectif en tête, non pas atteindre les 1h50 que je m'étais fixé, mais simplement faire mentir ce 7 années prédicteur de course en finissant le semi-marathon en moins de 1h57. Et cette course, tu la vois vraiment monter. Hein. C'est là où c'est vachement cool. C'est hyper addictif en effet, entre le nombre de pas, la fréquence cardiaque. Est-ce que tu as fait ta séance au bon moment? Dur de pas lâcher car on a déjà trop investi dans les précédentes séances, le biais à la perte. Oui, non, complètement. C'était vraiment cette motivation-là. Et donc, Perso, j'étais capable de ça. Je savais que grosso modo, j'étais capable de faire le semi en 2h04. C'est à peu près la seule prédiction que j'avais, puisque il y a une fois, j'avais une séance de 22 km. J'avais fini du coup les 21,100 km en 2h15, donc la distance du semi-marathon. Et si j'étais aussi lentement, c'est parce que je m'étais fait mal au genou et qu'en fait, à partir du 15e kilomètre, j'avais beaucoup ralenti. Mais à la base, j'étais sur des bases de semi-marathon en 2h04 jusqu'à 16 km. Donc sans cette douleur au genou. Donc j'étais à peu près sûr de moi que je pouvais faire en moins de 2 heures. Donc je m'étais fixé 3 objectifs, le boucler en 1h50, 1h55 ou moins de 2 heures. Dans les 3 cas, ça aurait été un record personnel, puisque jusqu'à présent le record c'était 2h15. Et en fait, je l'ai fini en 1h, sans spoiler, en 1h52 et 58 secondes. On viendra dessus, la fonction Pace Pro, dossier qui a été publié donc ce matin. J'ai battu tous mes records, donc semi-marathon, 10 km, 20 km, 5 km, 10 miles, 2 miles, 15 km. Donc ça, je suis content. Maintenant, mon objectif, ça va être de faire moins de 50 minutes pour le 10 km, pour info. Et par contre, oui, le truc hyper frustrant, ce prédicteur de course qui me dit tu peux faire le semi-marathon en 1h57, je m'attendais à ce qu'après le truc, il me dise ah ça y est, tu peux faire le semi-marathon désormais en 1h52, la preuve, tu viens de le faire. Il me met 1h56, et même là, une semaine après, même maintenant, une semaine après, le semi-marathon, si je vais dans mon prédicteur de course, c'est où ça ? Stack de performance, prédicteur de course, semi, la mise au point se fait pas. 1h56, les enfoirés. Alors que maintenant, je sais que je suis capable de le faire en 1h52, donc pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça avec moi ? Je refais la mise au point, voilà. C'est un peu abusé, on se fout de moi là, non ? Sur la ligne d'arrivée, t'étais en mode proskinesse. Je sais pas ce que c'est proskinesse, peut-être. Donc voilà, je m'étais bien préparé, et pour le coup, je suis assez content de mon résultat. Et très honnêtement, c'est le fait d'avoir une montre de sport qui m'a aidé. Ah, pas forcément une Garmin, je pense que je... Alors, du coup, comme j'ai pris l'entraînement de Garmin, c'est forcément c'était plus efficace et c'est celui que je connais le mieux. Voilà, c'est celui que je connais le mieux, mais je pense que j'aurais pu atteindre les mêmes entraînements ou faire les mêmes entraînements avec une Coros, avec une Suunto, avec une Polar sans trop de problèmes. Le prédicteur de course, c'est vraiment une fonction qui est vachement bien chez Garmin et je crois pas qu'on l'ait ailleurs. Et il y a une autre fonctionnalité qu'on a utilisée. Alors, j'ai pas couru tout seul, du coup, j'ai couru avec Maxime, qui fait aussi des dossiers et des tests de montres connectées, qui a publié ce matin un dossier sur Garmin Pace Pro, qui est le coach d'allure en temps réel de Garmin. En gros, c'est un système qui, quand vous préparez une course, alors lui le fait beaucoup en trail, mais du coup, moi je l'avais fait sur le semi de Paris. Quand vous préparez une course, vous lui dites en combien de temps vous voulez faire cette course-là. Donc là, en l'occurrence, le semi, c'est forcément à 21,100 km. En combien de temps vous voulez faire cette course-là. Donc 0, 1h, 49 minutes, 43 secondes, donc à cette allure-là, à 5 minutes 12 par kilomètre, avec un système de split. Donc l'idée, c'est si jamais vous n'avez pas envie de courir systématiquement à la même allure, parce que sur du trail, parfois il y a des montées qui montent vachement, et puis parfois il y a des descentes, donc vous n'allez pas rester à la même allure tout du long, ou alors simplement si vous voulez faire une course avec ce qu'on appelle un négatif split. Négatif split, c'est le fait de commencer lentement et d'accélérer au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'après on sent bien que du coup tu te grilles pas au début, tu vas pas partir trop vite, ce qui est un peu le problème qu'ont beaucoup de coureurs, surtout débutants, c'est de courir, et j'avais peur de ça, de partir trop vite et du coup de me brûler trop rapidement. Et donc là l'idée c'est voilà. On s'est fait cette petite stratégie-là, ce qui veut dire grosso modo que sur la montre, au fur et à mesure, est indiqué pendant le premier kilomètre, il te dit, il faut que tu cours, si tu veux arriver à ta course, il faut que tu cours à 5 minutes 32, je crois, on partait à 5 minutes 32 par kilomètre, puis 5 minutes 33 au deuxième, puis 5 minutes 32, puis 5 minutes 33, etc. Et au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite, et ça varie aussi avec... selon le dénivelé. Donc là, par exemple, si on regarde la rue de cette montée-là, là, le 15e kilomètre, je l'ai détesté. Je le connais, pourtant, parce que je le cours souvent, mais je l'ai vraiment détesté. Toute cette montée-là de l'avenue de Ménil, je me suis brûlé. Mais du coup, par contre, il me demandait d'aller plus lentement que sur les kilomètres 13 et 14, qui sont des kilomètres qui sont descendants. Voilà. Donc l'idée, c'est de tester cette fonctionnalité-là pour justement... c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur les montres Garmin. C'est un truc qui pour le coup, Maxime, qui en ce moment utilise toujours, je crois, une Suunto, la Suunto 9 Peak Pro, ça lui manque pas mal. De ne pas retrouver justement cette fonction Pace Pro qui est vachement pratique, surtout pour le trail, parce que lui fait des trails donc en montagne. Là, on le voit par exemple sur la trace des Maquisards. qui a un 48 km, 42-37, pardon. Qui voulait courir à 5,54 du kilomètre. Et en fait, bah voilà, lui, quand il va faire ses trails, il utilise cette fonctionnalité-là justement pour avoir les différentes fréquences et les différentes allures à tenir à tel ou tel kilomètre. Et c'est un truc qu'il a beaucoup aidé. Donc tout ça, il explique un peu cette fonctionnalité-là dans ce dossier-là, à la fois comment le paramétrer avant, donc en fonction de l'altitude, du dénivelé, ou le faire par kilomètre, ou par miles, ou avec du négatif ou du positif split. Comment l'utiliser pendant, donc les écrans, comment ça va s'afficher à la fois sur l'écran dédié sur une montre Garmin, donc là, là ça va être l'allure à tenir, l'allure que tu as actuellement, et est-ce que tu es en avance ou en retard sur ta prédiction et ce que tu avais programmé, et ça va s'afficher aussi sur des vues plus classiques, donc ça c'est une vue de course à pied de base, il a ces données là ici, donc avec la jauge de où on en est dans le kilomètre, enfin dans le segment, l'allure qu'il a et l'allure qu'il est censé tenir. Ce que je trouve fort, c'est de courir aussi longtemps sur Paris. J'ai testé une fois de courir une heure sur Paris, j'étais essoufflé au bout de 20 minutes, alors que dans ma campagne, je ne le suis pas à la fin de l'heure en courant à 145-153 BPM à l'époque. J'avais 23-25 ans, je trouve impressionnant le semi pour le coup. Bah, il n'y a pas de voiture sur le semi, c'est ça qui est bien. En fait, moi, c'est aussi pour ça que je voulais courir le semi-marathon. C'est que c'est une compétition où tu sais que pendant 20 km, tu vas pas avoir de feu rouge, donc t'as pas de feu piéton, tu peux vraiment courir sans et traverser les rues, etc. Et en fait, bah, c'est là où tu peux faire un record. Et oui, les infos essentielles sur la Garmin, c'est ce que Maxime utilise, c'est la zone de fréquence cardiaque, donc sa fréquence cardiaque et la zone dans laquelle il est. Donc là, il est en zone 4. Non, là, il est en zone 1 à 135. La distance parcourue, la cadence moyenne. Ça je sais pas, HD, BHD et la fréquence cardiaque moyenne. Il utilise ces données là, il a pas l'allure d'ailleurs, l'allure moyenne, et donc son avis, parce que du coup il l'a pas mal utilisé, et c'est forcément lui, pendant la course je lui avais envoyé ces données là pour que lui puisse me tirer, c'est à dire qu'il a un bien meilleur niveau que moi en course à pied, mais il était là pour me pousser. C'est-à-dire que, j'ai des vidéos de lui sur le sprint final qui me hurle « Allez Joe, allez, cours, déchire-les, défonce-les, etc. » Lui, il trottine hein, devant, enfin, il est devant moi, je donne tout, je suis en train de sprinter, lui, il est en train de trottiner en mode vraiment juste pour m'accompagner. Donc lui, le semi-marathon, il le fait en beaucoup plus rapidement que moi, mais il était vraiment là pour me pousser, et il était super sur la course. Et pour me donner les allures à tenir. C'est-à-dire en me disant, bah tiens, là, il faut que tu accélères, là, il faut que tu ralentisses. D'après le programme Pace Pro qu'on s'est fait, il faut que tu ailles taille à telle allure. Pourquoi je ne l'ai pas fait moi? Parce que je ne comprenais pas les données qui s'affichaient sur la montre, encore. Comme c'est la première fois que j'utilisais Pace Pro, ce n'était pas hyper clair pour moi. Mais du coup, maintenant que j'ai ce magnifique dossier, que je vous partage, ça va être beaucoup plus simple de comprendre ce que ça veut dire, le chiffre en noir et le chiffre en blanc. Voilà, ces deux chiffres-là. Maintenant, je sais. Et je vais pouvoir l'utiliser pour les 10K de Paris. Donc voilà, on a fait un peu long sur moi qui me la pète, parce que c'est un peu ça en vrai ce papier-là. Mais je suis content, il a bien marché, donc ça veut dire qu'a priori, il y a des gens que ça intéressait justement, le côté montre de sport. Et c'est un truc qu'on voudrait pousser de plus en plus sur Frandroid. Et moi j'attends impatiemment de tester ce modèle-là. La montre qui succède à la Forerunner 255. Parce que c'est aussi pour ça que je voulais faire le test longue durée. Alors, je l'avais prévu depuis de longue date, mais je voulais qu'on fasse le test longue durée avant de publier les tests des nouvelles montres et avant qu'on les récupère. Donc, la Forerunner 265 et la Forerunner 965. Voilà. Sachant que je pense que la 965 sera pour Maxime et la 265 pour moi, en test. J'ai des chances. T'as fini le semi, donc t'as le droit. Oui, non, mais c'est juste un semi. Hein. On verra le jour où je ferai le marathon. Et là, pour le coup, j'y crois pas du tout. Salut Ginta. Semi Orève Van à 8 km. Une énorme côte qui tue. Là, j'entends un mec qui me dit lâche pas, allez, suis-moi. Et je vois un mec en fauteuil qui me lâche dans la côte MBR. Il m'a tué les pattes. Ah, ça fait. Après, les mecs en fauteuil, enfin, pour le coup, j'ai vu les temps des mecs en fauteuil sur le semi de Paris. Alors déjà, ils partent avant tout le monde, mais le premier en handisport, je crois qu'il a fait 1h02, 1h03, un truc comme ça. C'est chapeau, hein. Chapeau. Mais franchement, c'est top, ces tests poussés de montre pour le coup. Et bah tant mieux, je suis content que ça te plaise et c'est pas prêt de s'arrêter. Après, c'est des... Enfin, en fait, moi j'étais très dubitatif au début parce que c'est des montres de sport, mais c'est des montres... Et juste pour info, la Garmin 260, Forerunner 265, elle était présentée parce que Garmin est sponsor du semi-marathon de Paris et donc sur le village... pour retirer les dossards, c'était à la grande halle de la Villette à Paris. Ils exposaient la Forerunner 265, donc je l'ai vue Elle est belle, hein. Elle est belle. Le fait d'avoir un écran AMOLED, en fait, ça change pas mal la donne. Et je la trouve plus jolie que la, enfin, vraiment plus jolie que la 265. En termes d'intégration de l'écran, etc. Enfin, j'ai vraiment hâte de la tester et je suis très curieux de l'autonomie. Donc, je suis assez dubitatif sur l'AMOLED, mais je pense que vous l'avez compris. Parce que l'autonomie et parce que la luminosité en plein soleil. Donc, si je la teste pendant l'été ou au moins pendant le printemps, on verra. Mais voilà. Un live le lundi, tout fout le camp. Normalement, il y a un live tous les jours, Batix. Hein. C'est pas de ma faute si normalement les gens qui sont censés faire des lives le lundi les font pas. je dis rien. Mais normalement, il y a un live tous les jours. J'aimerais pas me prendre une patate. Moi non plus. Ah oui, pour les mecs. Yes, Vibus, c'est... Ah oui, non, je... Voilà. Est-ce qu'on a de nouvelles actus qui ont été publiées ce matin? Ah, on va peut-être parler des braquages Xiaomi. Enfin, des braquages. Des vrais braquages, hein, rassurez-vous. Tout va bien. De toute façon, il n'y a plus de boutique à braquer. Oh hop, tu peux faire de vrais braquages chez Xiaomi à 19 ans et se créer lui-même ses promos. Xiaomi, alors peut-être que vous connaissez ça, très, très honnêtement. Enfin, les commentaires que j'ai vus passer en bas de l'article, c'était en mode « mais on connaît déjà, ça fait un moment que je fais ça, il n'y a rien de nouveau. » Voilà, tout le monde a l'air de connaître. Moi, je connaissais pas du tout. Alors, Jibus, il connaît. Alors, Jibus, il est au courant des bails. En fait, sur le site de Xiaomi, il est possible... Ah, c'est Aero qui avait envoyé ça. Ok. Sur le site de Xiaomi, il est possible de chercher tous les jours les Mi Points. Au bout d'un an, tu peux faire de vrais braquages. Quand il y a des promos, je vous raconte même pas, tu peux cumuler une réduction de base, plus bon de réduction, plus Mi Points, ce qui peut vous permettre d'avoir des grosses promos. En fait, les Mi Points, c'est un système qui a été mis en place par Xiaomi pour récompenser les personnes qui animent la communauté de la marque. Vous gagnez des Mi Points en téléchargeant l'application Mi Store, en achetant des produits du constructeur, en partageant un lien ou en laissant des avis. Où se trouve l'astuce là-dedans? C'est très simple, nous dit Aero. Dans l'onglet compte de l'application Mi Store, il y a une section Mi Points. Dans celle-ci, tous les jours, il faut récupérer une espèce de flamme qui permet de remplir une jauge de carburant d'un cran et qui donne 2 Mi Points. La jauge en question permet d'alimenter le vaisseau spatial piloté par le lapin mascotte de Xiaomi. Une fois la jauge remplie, au bout de 7 jours, on reçoit 50 Mi Points, en plus des 2 Mi Points du jour. Pendant certaines périodes de promotion, comme le Black Friday, ça va augmenter encore plus. L'idée, c'est que tous les jours, tu vas sur l'application, tous les jours, tu récupères des Mi Points, et du coup, ça te fait des gros... À la fin, tu as des grosses promos. Aero a fait cela presque quotidiennement pendant un an, à peu près, peut-être un peu moins. Ensuite, pour mon Xiaomi Mi 11, de base, il était sorti à 749€. Il y avait une réduction affichée à 50€. Avec un coupon plus les Mi Points, il est passé à 533€. Donc, en gros, il se fait des promos Black Friday tout seul. Je peux pas, j'ai pas de commu qui les intéresserait ou d'Insta. Ah, il n'y a pas de date butoir pour les utiliser, genre un an. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Après peut-être, hein, mais du coup si tu le fais vraiment tous les jours pendant un an, ça te permet d'avoir une belle promo. Peut-être, enfin au total, c'est peut-être le maximum que tu puisses avoir du coup. L'anecdote d'Aero permet aussi de mettre en lumière l'importance de cette petite chose mise en place par Xiaomi pour se constituer une communauté active. La marque sait qu'elle a des fans des vrais, qu'elle a d'ailleurs su fédérer avant même son arrivée officielle en France, et les prix agressifs qu'elle aime habituellement pratiquer n'expliquent pas à eux seuls cet engouement. Il y a aussi une communication habile, via des forums notamment, des magasins physiques, qui ont cependant fermé, des leviers malins tels que les Mi Points. J'en parle à tous les lives, lol. Ok. En vrai, on peut garder un téléphone haut de gamme 3 ans, donc faire ça pendant 3 ans et avoir un haut de gamme pas cher du tout. Ok. Bonne affaire. Je vois l'astuce, tu prends l'habitude d'aller sur l'appli Xiaomi, tu vois les produits en même temps et tu te laisses ainsi tenter par un Xiaomi. Au bout d'un moment, ça permet d'avoir une grosse communauté, j'imagine. Exactement, c'est la conclusion, je crois, de l'article d'Omar. On peut aussi le voir sous un autre angle, plus intéressant pour le constructeur. D'une part, Aero utilisant un système qui lui fait préférer l'achat d'un smartphone Xiaomi plutôt que celui d'un concurrent. D'autre part, son témoignage donne potentiellement envie à d'autres personnes de l'imiter et finalement permettre à Xiaomi de recruter davantage de clients, que ce soit grâce au bouche à oreille ou à cet excellent article de Frandroid que vous lisez actuellement. Sachant enfin que beaucoup de personnes ne vont pas aussi loin qu'Aero et utilisent les Mi Points pour acheter à très bas prix d'autres produits moins onéreux tels que des ampoules connectées par exemple. On peut l'avoir pour des écouteurs sans fil aussi, par exemple. Donc non, c'est cool. Et pour obtenir des Mi Points, il faut lancer l'application Mi Store et être un membre actif de la communauté. C'est une manière comme une autre de faire ce qu'on appelle du marketing des tribus. Un processus où une marque arrive à faire en sorte que ses clients fassent d'eux-mêmes la publicité de ses produits. Alors certes, dans le cas d'Aero, on pourra se dire que l'étudiant de 19 ans fait perdre de l'argent à Xiaomi avec ses grosses promotions, mais l'air de rien, bah, du coup, il va quand même acheter un Xiaomi. Puisque bah, c'est le moyen de fidéliser les gens, quoi. Je crois que Samsung fait idem avec ses points, mais il faut acheter des produits, ce qui limite la chose. Ok. Oui, après, tu as un certain point, certains Mi Points qui sont valables que sur des durées, mais les Mi Points acquis par achat direct, aucune durée limite. Ok. Ça va saigner pendant le Xiaomi Fan Festival. Enfin, c'est bien s'il y a des astuces sur des moments en particulier. Cet article-là, juste pour info, c'est un truc qu'on va essayer de mettre de plus en plus en place sur Frandroid. C'est de travailler beaucoup avec des gens de la communauté. Donc, ça peut être Mwendingo, par exemple, Lordibus, Batix. Vous êtes des gens qui sont, enfin, des personnes qui sont vachement actives sur le, que ça soit sur le Discord ou ailleurs. Je sais qu'Omar est très avide. Slash avare de témoignages, pas avare d'ailleurs, c'est pas le terme, mais bref, il cherche des témoignages et essaie de trouver justement de se reposer un petit peu sur des idées que vous auriez ou votre expérience en tant que personne avertie, voilà, pour essayer de trouver des idées d'articles. Donc ouais, c'est des choses qu'on va essayer de faire de plus en plus sur le site. Voilà. De quoi est-ce qu'on peut parler encore? Test des écouteurs Audio Technica, parce que je vous l'ai teasé un petit peu tout à l'heure. Tout le test audio des Audio Technica ATHTW X9, qui sont des écouteurs haut de gamme de chez Audio Technica, ce qui est plutôt rare. Des écouteurs qui proposent du Snapdragon Sound, du Sony 360 Reality Audio, le codec aptX Adaptive, des transducteurs de 5, je sais plus combien, 5,4 mm je crois de mémoire. 5,4 mm. De la réduction de bruit active qui fonctionne bien. Voilà. Et donc, c'est un 7 sur 10. On avait dit un peu entre 7 et 8. Mais le prix est quand même relativement élevé. C'est des écouteurs qui sont pas les plus forcément recommandables pour leur prix. On va avoir une scène sonore qui est assez large avec une très bonne spatialisation. Ça, c'est plutôt cool. Une réduction de bruit qui est efficace, et ça pour le coup c'était pas donné sur du Audio Technica. Alors ça vaut pas les Bose ou ça vaut pas les AirPods Pro 2, mais c'est de très bonne facture quand même. Un bon confort d'utilisation, beaucoup de réglages dans l'app, genre vraiment beaucoup. On peut même choisir, enfin refaire la balance entre l'écouteur gauche et l'écouteur droit, ça c'est plutôt intéressant. Bonne qualité d'appel, boîtier avec charge de chi et nettoyage des écouteurs par UV, ça c'est pas mal aussi. Marge dynamique perfectible, donc on a un certain manque de dynamique. Résolution globale limitée, spatialisation 360 audio farfelue. Et concurrence féroce à ce prix, parce que c'est vrai qu'il y a 300 euros en fait, bah, c'est quasiment le prix des AirPods Pro 2. Ils sont même moins chers maintenant, les AirPods Pro 2. Les Bose QC AirPods 2, pareil, ils sont même moins chers. Et les Bang & Olufsen Beoplay EX, ou même on a cité les BW PI7 S2, donc les Bowers & Wilkins, qui sont plus généreux, mais de meilleure qualité sonore. Donc voilà. Alors, c'est pas du nettoyage. Ça va te virer les bactéries, mais tu auras toujours de la cérumène. Hein. Voilà. Donc c'est des bons écouteurs, mais bonne journée Batix. Profite bien, marche bien. C'est des bons écouteurs, mais c'est pas. Je m'attendais à mieux. Enfin, on s'attendait à mieux parce que c'est pas moi qui les ai testés, c'est Tristan. C'est malheureusement un peu en deçà, notamment sur la qualité sonore. Si on s'en tient au titre en stéréo ou en Dolby Atmos, la scène sonore est tout à fait convaincante. Quant à la réduction de bruit active, elle est dans le haut du panier, au même titre que la qualité des appels téléphoniques, efficacement débarrassée des bruits environnants. Mais la plage dynamique en léger retrait vis-à-vis des stars de la catégorie, la prise en charge de l'audio 360 qui est plutôt décevante, la spatialisation étant souvent fantaisiste et l'aigu trop rugueux, mais c'est lié à ces technologies spatiales et non aux écouteurs. Voilà pour les Audio Technica ATH-TW X9, avec un nom, ma foi, hyper sexy, n'est-ce pas? Dommage pour la dynamique en retrait. Ouais, miam, le miel des oreilles. Non, arrête, c'est dégoûtant. Bah, en même temps, quand on parle d'écouteurs sans fil, en vrai, en termes d'hygiène, t'as certes les bactéries, mais c'est ça le principal problème, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? Ah, alors que les fans de la marque déploraient l'abandon du cadran rotatif par Samsung sur ses dernières montres connectées, le constructeur pourrait faire machine arrière. Comme un informateur l'indique, la Galaxy Watch 6 Pro pourrait être équipée d'une lunette physique tournante. Ce ne sera a priori pas le cas pour le modèle de base. Yes ! Ces informations du leaker Super Rodeur sur YouTube via Sam Mobile, la lunette rotative pourrait revenir sur la Galaxy Watch 6 Pro attendue pour cet été. Un retour attendu par les fans de Samsung depuis 2 ans. Ça c'était bien ça. Ça c'était bien et ça reviendrait. Lunette rotative ou lunette tournante est une sorte de bouton physique entourant l'écran d'une montre connectée. À l'instar de la couronne qu'on peut trouver sur d'autres modèles comme les Apple Watch, cela permet de faire plusieurs choses. Sur la Galaxy Watch 4 classique par exemple, on pouvait modifier la luminosité, réveiller l'écran ou tout simplement naviguer dans l'interface. Retour de la molette, trop bien. Ouais. Super Rodeur a indiqué dans une vidéo publiée sur YouTube que la Galaxy Watch 6 Pro aurait droit à une bague tournante. Le modèle de base n'y aurait toutefois pas droit. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la Galaxy Watch 6 Pro disposerait d'un écran incurvé, qui rend difficile l'intégration d'un dispositif physique. Depuis les Galaxy Watch 4, le modèle de base ne possédait plus de lunettes rotatives sur les montres connectées de Samsung. En 2021, seule la Galaxy Watch 4 classique avait eu droit à ce système bien pratique. Le fabricant était allé plus loin l'année dernière, puisque ni la Galaxy Watch 5 ni la Galaxy Watch 5 Pro n'en étaient équipées. Il avait troqué ce système physique pour un fonctionnement par navigation tactile et par ouais c'est ça le truc virtuel en fait où vous tourniez comme ça et ça faisait genre mais ça n'a jamais été convaincant même depuis je sais plus qui d'entre vous je crois que c'est à la Galaxy Watch Active 2 qui était la première à inaugurer ce système là et qui est pas hyper convaincant. Je n'ai jamais vraiment testé, ça permet déjà d'avoir un bombage protecteur. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que du coup, si votre montre tombe, elle tombera sur la lunette et non pas sur le verre directement. J'ai la Watch Active 2 qui l'a en effet. Voilà, c'était moins dingo. D'autres fuites font déjà connaître des détails potentiels de la prochaine génération de montres connectées de Samsung. Les batteries de celles-ci ont passé la certification en Corée du Sud et il semblerait qu'elles profiteront d'une plus grande capacité, de quoi espérer une meilleure autonomie. Alors, c'est marginal, hein. C'est marginal. Vous attendez pas non plus une révolution, à moins d'un nouveau processeur, mais vous attendez pas non plus une révolution là-dessus. On a un retour haptique qui tourne quand on tourne la bague virtuelle. Oui, c'est un retour haptique, quoi. Ça vaut pas le système cranté de. Pour avoir testé les deux, ça vaut vraiment pas le système cranté de la classique. J'ai la Watch 5 Pro, c'est pas pratique. Voilà, on est d'accord avec Junta. Et donc, quand est-ce qu'on peut attendre cette Galaxy Watch 6 ? Bah, a priori, pendant l'été. Très probablement au niveau de l'annonce des Galaxy Fold 5 et Flip 5, sans doute. Donc, probablement mois d'août, je pense. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter un petit peu plus tôt aujourd'hui. On va s'arrêter un petit peu plus tôt parce qu'il va falloir annuser que moi, je vais avoir des réunions à préparer et que j'ai pas mal de déplacements aujourd'hui. Sur ce, hop, vers qui je peux vous envoyer ? On va refaire le petit raid qui va bien comme d'habitude. Le tourner à deux doigts, c'est bien aussi. Ouais, ça marche bien. Une vraie bague, je suis pas contre, rien que pour la protection et le fait d'être sûr d'avoir la rotation prise en compte. Exactement. En fait, l'avantage, c'est que tu vas pas avoir de problème comme sur des écouteurs. Sur des écouteurs, moi, je préfère des vrais boutons parce que quand tu appuies sur le bouton, tu sais que c'est pris en charge. Alors que sur des contrôles physiques, enfin des contrôles tactiles, bah parfois, tu sais pas si jamais le contrôleur tactile a compris que tu avais appuyé dessus ou pas. Comme sur un écran, sur les espèces de lunettes rotatives, enfin lunettes virtuelles sur les montres Samsung, parfois tu sais pas si c'est bien pris en charge, alors que si tu fais tourner le truc, bah ça l'est. Il y a pas de question à avoir là-dessus. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va lancer je sais pas vers qui. Pas beaucoup de monde en live. Vers qui je peux vous envoyer ? Est-ce que vous avez une idée ? Parcourir. J'ai aucune idée de qui vers qui vous envoyer. Vers qui faire un raid ? Oui, sur les écouteurs, surtout avec des gants, tu sais pas si l'appui sur le bouton tactile de l'écouteur a été pris en compte. Exactement. Bah, je sais pas du tout. Parce qu'il y a personne que je suis. Ah, si. Bah, écoutez, a priori, lui, il fait un peu comme nous. J'ai Defend Intelligence. Mais en même temps, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, bah voilà, Defend Intelligence. Ok. Eh bah, écoute, je vais te suivre, Wendigo. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Oui, des gros bisous. Si vous êtes d'accord, évidemment. Je vous dis. Alors, pas jeudi, parce que je ne serai pas là jeudi. Mais à la semaine prochaine, en ce qui me concerne. Et j'ai une vidéo qui sort ce soir sur le test du Vivo X90 Pro sur la chaîne YouTube, normalement. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube. Sur ce, de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Ciao !